Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour, bienvenue dans ce numéro de septembre de Loire Mag, le podcast. Que l'on soit en âge scolaire, au travail ou retraité, l'ambiance bien sûr est à la rentrée. Et pour reprendre dans les meilleures conditions, quoi de mieux que le sport? Les activités proposées sont nombreuses dans le département, comme en témoignera Jean-Yves Bois, vice-président en charge de la jeunesse et des sports au département. Nous mettrons aussi dans cette émission le coup de projecteur sur l'association Revivre, qui aide plusieurs centaines de personnes chaque semaine sur le plan alimentaire, mais pas seulement. Et l'association manque de bénévoles, peut-être une occasion pour certains d'entre vous de s'engager en cette année. Dominique Riffard sera au micro de Clément Bonsignor. Clément Bonsignor, on le retrouvera aussi pour parler peut-être des bonnes résolutions, puisque c'est peut-être l'occasion de ce mois de septembre d'être attentif plus que jamais à nos gestes écologiques. C'est l'objectif, l'un des objectifs de l'association Montbrison Forêt en transition. C'est Liane Thierry, coprésidente, qui nous l'expliquera. Et nous terminerons l'émission avec une bonne nouvelle, passée peut-être un peu inaperçue en début d'été. La ville de Charlieu est précandidate pour que son abbaye fasse partie des sites clunisiens retenus en Europe et entre dans le patrimoine mondial de l'UNESCO.
Loire Mag, le dossier.
En cette période de rentrée scolaire, vous êtes nombreux à envisager une pratique sportive. Ça tombe bien, la Loire est un département particulièrement sportif et cela à tous les niveaux. C'est ce que nous explique Jean-Yves Bonnefoy, vice-président en charge de la jeunesse et des sports au département. Il est au micro d'Emma Yel.
On accompagne au niveau du département une dizaine de centres et de pôles de formation. Il y a 3 pôles de formation. Il y a le cyclisme, le BMX et la gymnastique. Et puis on a aussi des centres de formation qui sont attachés à des clubs, notamment en foot, notamment en basket, etc. Et on les accompagne parce qu'on estime vraiment que la formation, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce qui nous amènera des athlètes de haut niveau dans les années à venir. Et on aime bien avoir des athlètes de haut niveau.
Et plus largement, est-ce qu'il y a beaucoup de sports amateurs dans la Loire?
On est sur à peu près 2000 clubs et 200 000 licenciés. Alors on a un peu tout, on a tout, oui, on a tout. Tous les sports sont représentés. Les plus représentés, le foot, le basket, ça c'est évident. Mais on a aussi des sports un peu nouveaux qui arrivent. Le basket 3-3 notamment, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment connu, qui commence à fonctionner un petit peu plus. Et puis on a des activités de pleine nature aussi qui sont représentées de manière importante dans la Loire. Et oui, on a un terrain de jeu qui est plutôt bien.
En activité de pleine nature, je crois que la pêche est quelque chose qui se fait beaucoup.
Alors c'est marrant parce que la pêche, dans l'esprit des gens, ce n'est pas vraiment un sport. C'est plutôt une pratique de loisir. N'empêche que, quand on fait de la pêche à la truite et qu'on se parcourt des rivières un peu dans tous les sens, c'est quand même sportif, il faut reconnaître. Alors la pêche en étant un peu moins, on est d'accord. Néanmoins, c'est une pratique qui est très pratiquée dans la Loire. Ben, faut dire qu'on a quand même un fleuve qui fait 100 km de long, des rivières qui l'alimentent aussi, donc qui sont importante, et on a une belle qualité de naturelle, je veux dire, il y a beaucoup de poissons, c'est plutôt pas mal.
La Loire est aussi un très beau territoire pour le VTT.
Ah oui, tout à fait. On a 2 sites qui sont très intéressants, c'est le Pila, bien entendu, avec on a à peu près 800 km de sentiers balisés, labellisés FFC, et on est sur 1500 km. Ça part de Noirétable, en gros, ça rejoint Chalmazel, le col de la Loge, ça redescend sur le secteur de Bichy, et ça rejoint aussi les pistes qui sont balisées également du côté d'Ambert. Donc, sur l'ensemble, si on rejoint les 2 sites, par notamment le col des Super, on a tous les plateaux. C'est magnifique. Je conseille vraiment à tous les gens d'aller faire un tour. Vous partez des Super, vous allez jusqu'au col de Béal. C'est un bonheur, c'est tout plat. Très plein, on va dire.
On peut attirer aussi des touristes en VTT.
Tout à fait. Il faut savoir qu'on a à peu près 250 marches organisées sur la Loire chaque année.
On fait partie des départements les plus importants.
On est d'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on sache. Et aussi, donc en termes de VTT, je pense qu'on a une vraie carte à jouer, mais là, il faut qu'on organise l'itinérance. Parce que un vététiste, ou une famille de vététistes, ou même le véloroute, qui vont venir faire un séjour dans la Loire, il va falloir qui se logent, qui mangent, qui fassent leurs courses. Donc, il faut vraiment qu'on organise tout ça. On a créé le label Village Sport Nature depuis 2017. On en a pour l'instant une douzaine qui sont, alors certains labellisés, d'autres en passe de l'être. Et l'intérêt de ces Villages Sport Nature, c'est justement de présenter des activités de pleine nature et de faire en sorte que les gens puissent découvrir une offre sur le département de la Loire par le biais justement de ces différents villages, communes de moins de 2500 habitants, pour avoir un impact touristique un peu important. C'est quelque chose qu'on va continuer à développer.
Pour favoriser les retombées économiques.
Alors oui, favoriser les retombées économiques. Et puis aussi, c'est pas qu'on est chauvin dans la Loire, mais on aime bien ce qu'on a, parce que c'est beau. Et faire connaître aux gens le potentiel de la Loire. On veut un tourisme responsable, un tourisme durable. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler encore.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Parmi nos bonnes résolutions de rentrée, il peut y avoir l'idée de devenir ou redevenir bénévole dans des associations qui en manquent, alors que le public aidé, lui, ne diminue pas. C'est le cas du foyer Revivre à Saint-Étienne. Dominique Riffard vient de succéder à la présidence de l'association Henri Abrial, qui exerça cette fonction durant 21 ans. L'accueil de ceux que le foyer Revivre appelle les passagers a été bien transformé par la pandémie, mais les valeurs fondamentales sont toujours au rendez-vous. Dominique Riffard.
Ça se passe avec le Covid, mais ce qui est important pour l'association Revivre, c'est les quatre fondamentaux. C'est une association sans conditions. On vient, on frappe à la porte, on est accueilli en situation de détresse, si on est cabossé de la vie. Il y a des bénévoles qui sont là pour écouter et apporter un peu de réconfort, d'encouragement, d'amitié. On va nourrir, on va vêtir les exclus que rejette la société. Tous ceux qui frappent à la porte, on essaye de les remettre debout et tous ceux qui passent chez nous sont des passagers.
C'est sans condition, tout le monde peut venir demander de l'aide alimentaire à l'association Revivre. Vous ne faites pas que ça ?
Tout à fait, on a un vestiaire qui est ouvert et qui est alimenté par les vêtements que nous sont donnés par la population, par des amis. On a une distribution de tickets bain-douche. On a aussi une aide à l'écoute psychiatrique en lien avec le CHU.
Le Covid a tout changé. Avant, vous faisiez 90 repas à peu près. C'était des repas. Maintenant, ça s'est transformé en colis et c'est beaucoup plus.
Tout à fait. Avant le Covid, on fonctionnait avec repas le mercredi, le jeudi et le samedi et distribution de colis le samedi. Le Covid étant passé par là, cette année, on a fait uniquement une distribution de colis les mercredis et les samedis. Sauf qu'avant, on avait à peu près 90 repas et une centaine de colis. Et maintenant, avec le Covid, on a inscrit plus de 400 personnes à la distribution des colis. Donc, on a chaque fois à peu près entre 100 et 110 personnes qui viennent chercher un colis.
C'est près de 8000 colis distribués depuis septembre 2020.
Tout à fait.
C'est un chiffre énorme. Pour ça, il faut une intendance derrière. Il faut même plusieurs intendants. J'ai envie de dire, d'abord, il faut des petites mains. Il faut des bénévoles. Et ça, dans les associations, on en manque un peu toujours, Dominique Riffard.
Alors, on en manquait avant et on en manque encore plus maintenant. Hein, à savoir que 8000 colis, c'est un colis pèse 2,5 kg. Environ. Il faut être en bonne forme aussi. Oui. On a besoin de gens bénévoles qui vont à la banque alimentaire, puisque c'est elle qui nous alimente en principe pour une grosse quantité. Cette année, elle nous a donné 14 tonnes de nourriture, mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu qu'on en achète 3 tonnes, nous, pour arriver à servir tout le monde. On a besoin d'un coiffeur, parce que notre coiffeur est parti du département. On a besoin d'une couturière pour réparer les habits. On a besoin.
Et vous avez besoin, et vous l'avez dit un peu comme ça, mais de denrées alimentaires. Appel à nos auditeurs et aux dons, j'ai envie de dire, aux dons de toutes sortes d'ailleurs, de nourriture ou d'argent, puisque c'est comme ça que vous vivez également.
On vit exclusivement de dons. La banque alimentaire nous fournit des denrées. À l'intérieur de ces denrées, l'Europe vient à hauteur de 3,5 tonnes. On fait des collectes aussi dans les magasins. Et puis, on a besoin de dons en argent parce qu'on a besoin d'acheter.
Et autre chose pour vous aider, et ce sera une de mes dernières questions, Dominique Riffard, c'est la brocante. Vous y tenez évidemment cette année, on ne sait pas encore comment tout ça pourra se mettre en place, mais ça serait bien qu'elle revienne pour le coup.
Eh ben, la brocante, on l'a fait à l'automne, hein, au mois de novembre, pour pouvoir faire un repas amélioré à nos passagers à Noël, et on espère pouvoir la tenir. Et là aussi, on a besoin de tout ce qui traîne dans vos greniers et dans vos caves. On le revend 1 euro, 2 euros, mais 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, ça fait des sous.
Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, comme on dit. Dominique Riffard, quelque chose à rajouter sur cette association Revivre et sur cette présentation générale que nous proposons aux auditeurs aujourd'hui ?
Eh bien, je crois qu'il faut venir nous voir, il faut venir nous donner un coup de main, parce que en même temps qu'on va aider ces personnes qui sont dans le besoin, on reçoit beaucoup. Un sourire, un merci et on est content.
Alors venez faire un détour. 22 rue Maringo à Saint-Étienne.
Loire Mag, évadez-vous ici.
Vous l'avez sûrement entendu, le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental des Nations Unies sur l'évolution du climat, paru début août, est inquiétant et il appelle chacun de nous à plus de responsabilités que jamais dans notre quotidien vis-à-vis de l'environnement. À Essertines en Châtel-Neuf, près de Montbrison, l'association Montbrison Forêt en Transition agit régulièrement sur le territoire avec une dernière innovation, une récente innovation autour d'une carte pas comme les autres. Liane Thierry, coprésidente de l'association, est au micro de Clément Bonsignor.
Alors, on a une dizaine d'années et comme le nom l'indique, c'est une association de transition écologique. Donc, on cherche à inciter et accompagner les citoyens et les élus dans une transition vers un mode de vie qui va être plus écologique, plus compatible avec les limites planétaires.
Alors là, on le voit très vite quand on va sur votre site internet, vous proposez de tout. Je vois permaculture, ateliers collaboratifs en transition, des fours solaires. Ça prend la forme d'ateliers, de réunions d'information.
Au niveau de l'association, on se réunit tous les premiers lundis du mois. Et puis, on fait aussi donc des événements de sensibilisation et des événements plus pratiques, des ateliers pratiques, où on va faire ensemble des choses concrètes, notamment du jardinage. On a un jardin partagé où on va jardiner ensemble. Et c'est aussi un lieu où on fait des activités comme voilà, une fabrication de fours solaires, mais toutes sortes d'activités qu'on peut mener.
Et ça, à destination des Montbrisonnais et puis des habitants du Forêt.
Voilà, c'est pour ça qu'on ne s'est pas appelé juste Montbrison en transition, mais Montbrison Forêt en transition, parce que voilà, c'est une association qui peut accompagner et travailler avec des gens du bassin montbrisonnais, mais ce n'est pas restrictif à Montbrison même.
Qui rayonne un petit peu ailleurs et qui rayonne même sur tout le département grâce à cette carte qui a maintenant un an et demi, qui est née au premier confinement. Je suppose qu'elle a grandi depuis. C'est une carte des circuits courts dans la Loire. Liane Thierry, est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette carte ?
C'est une carte collaborative. Le principe, c'est que lors du premier confinement, on avait envie de faire quelque chose pour aider les producteurs locaux. Parce que la thématique alimentaire nous semble très importante dans la transition écologique. Et voyant que parfois, ils avaient du mal à trouver des débouchés, on a décidé de faire cette carte et elle regroupe maintenant à peu près 400 producteurs et distributeurs de produits locaux et chacun peut contribuer à la carte, qu'on soit producteur ou simple consommateur, mais qu'on connaît à côté de chez soi un producteur, et bien on peut rentrer le lieu et le type de produit que le producteur fournit.
Et c'est tout un système parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont représentées, 400 producteurs ça fait quand même beaucoup, ça a amené à grandir aussi évidemment. On a des magasins de producteurs, on a des marchés, on a les systèmes de paniers, on a les drives, les AMAP, les livraisons à domicile. Finalement, le but, c'est vraiment de promouvoir tous les circuits courts de la Loire. On pense à l'alimentaire, mais il y a aussi des pépinières, par exemple. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse se réunir là-dessus.
Voilà, l'idée, c'est effectivement de valoriser les produits locaux, parce que c'est des métiers aussi qui ne sont pas faciles. Et une fois que la production est faite, parfois aussi, il y a la commercialisation derrière qui est aussi difficile pour les producteurs. Donc l'idée, c'est effectivement de les aider dans ce travail-là et que les consommateurs se rendent compte qu'autour de chez eux, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il n'y a pas besoin de faire venir des produits du bout du monde pour se nourrir correctement.
Il y a par exemple des glaces un peu partout dans le département. Enfin, on découvre plein de choses à un niveau artisanal. Comment vous est venue cette idée de cette carte? Est-ce que vous avez pris l'exemple sur d'autres départements, par exemple, ou est-ce que c'est vraiment le fruit de votre imagination?
Alors au départ, c'était le fruit de notre imagination, mais bien sûr, après, on a regardé sur Internet ce qui se faisait et on a vu que d'autres avaient eu cette idée avant nous. Donc on s'est beaucoup inspiré d'une carte faite en Auvergne, pas le CIVAM Auvergne, et donc qui utilisait aussi le logiciel libre qu'on a utilisé qui s'appelle Gogo Carto. Et du coup, on a dupliqué un petit peu leur mise en forme, la manière dont ils avaient fait leur carte, pour faire notre carte Loire. Et puis on s'est servi de bases de données existantes qui étaient plutôt au format un petit peu catalogue, pas forcément géolocalisé comme notre carte, pour rentrer les premières données dans la carte. Et puis maintenant ça suit son cours, d'autres personnes ont ensuite poursuivi ce travail.
On veut dire qu'elle vit toute seule maintenant.
Voilà, alors on aimerait qu'elle vive même encore un peu plus, parce que sa vie, mais le nombre de visites sur le site nous montre qu'il pourrait y avoir encore plus d'utilisation de cette carte. Donc c'est vrai qu'on cherche à la faire connaître pour qu'elle continue d'avoir des nouvelles données dedans et surtout qu'elle soit bien mise à jour parce qu'il y a des produits qui peuvent être nouveaux chez les producteurs, les horaires ou les modes de distribution peuvent changer. Et ça, c'est vrai que c'est difficile pour une association comme nous de le faire. Donc si c'est collaboratif et qu'à la fois les producteurs et les consommateurs nous aident à faire ce travail, la carte sera encore plus pertinente.
On va se donner rendez-vous, Liane Thierry, sur ce site internet circuit court au pluriel 42.gogocarto.fr pour aller voir justement tous ces produits. Et puis ça peut servir à des touristes aussi qui seraient de passage dans notre département et qui auraient envie de ramener un peu de la Loire chez eux. Merci beaucoup Liane Thierry d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coprésidente de l'association Montbrison Forêt en transition.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Elle en termine l'émission par une balade dans le nord du département, du côté d'un trésor du patrimoine médiéval ligérien qui sera peut-être bientôt connu mondialement. L'abbaye de Charlieu, tout comme peut-être prochainement le prieuré de Pommiers, est en effet précandidate pour être reconnue au sein du patrimoine mondial de l'UNESCO. La municipalité de Charlieu, le département de la Loire, ont en effet proposé l'édifice médiéval à la Fédération européenne des sites clunisiens pour qu'il figure dans la future liste candidate auprès de l'UNESCO. Pour Sylvain Dardoulier, conseiller départemental en charge du patrimoine culturel du département, cette candidature est aussi l'occasion de travailler avec cette fédération clunisienne.
C'était très intéressant déjà de faire partie de cette fédération parce qu'on a pratiquement tous les mêmes problématiques, mais aussi ils avaient un projet doublement intéressant, c'était d'une reconnaissance UNESCO, mais pas que pour certains sites, pour les sites européens, c'est de faire reconnaître l'art roman au niveau de l'Europe et auprès de l'UNESCO bien évidemment aussi.
Et renouer un peu tous les liens entre ces sites clunisiens dispatchés un peu à travers l'Europe.
À travers l'Europe et à travers le monde, c'est presque 2000 sites, hein, qui sont répertoriés, plus ou moins en bon état, mais déjà les moines à l'époque avaient déjà l'esprit européen.
Et donc cette candidature à l'UNESCO pourrait vraiment être une chance pour ce site de Charlieu?
On n'avait pas le droit de passer à côté. Et admettons que l'on soit retenu pour nos deux sites, ça va faire rayonner tous les autres sites clunisiens qu'il y a sur le département, parce qu'il n'y a pas que ces deux sites-là.
Charlieu a toutes ses chances pour figurer dans cette liste?
Oui, alors d'après les premières constatations, Charlieu a toutes ses chances. On est quand même sur un site magnifique, on est quand même sur un site urbain. C'est assez intéressant aussi. On espère que les deux sites passeront.
Et puis le fait de ne serait-ce que candidater, ça fait déjà parler de Charlieu, ça fait déjà connaître cette abbaye.
Bien sûr, ça fait connaître l'abbaye, ça fait connaître le département, ça fait connaître la ville aussi, parce que la ville de Charlieu a un riche patrimoine aussi architectural très intéressant. Et si on veut faire parler de nous, il va falloir que l'on puisse s'élever un petit peu vers ces fédérations, vers ces associations qui gravitent autour du patrimoine et qui travaillent pour le patrimoine.
Il connaît l'abbaye de Charlieu sur le bout des doigts puisqu'il l'a fait visiter depuis plus de 30 ans. Éric Bajard est médiateur culturel pour le département. Il va être notre guide dans cette abbaye de Charlieu. Pour un très court reportage, il commence par un rappel de l'histoire de l'abbaye.
L'abbaye de Charlieu a été fondée avant l'abbaye de Cluny, hein, dans les années 870-875, alors que l'abbaye de Cluny ne sera fondée qu'en 910. Donc une abbaye indépendante à l'origine, mais qui plus tard donc va être placée au Xe siècle sous la protection de la grande abbaye de Cluny, et plus tard même sera réduite en prieuré clunisien. C'était une abbaye qui était très puissante, hein, puisqu'elle était occupée par des moines bénédictins qui étaient eux-mêmes les seigneurs de la ville de Charlieu. Hein, donc c'était une puissance extrême. Et ce qui fait l'intérêt énorme de cette abbaye, c'est son architecture, bien sûr, et en particulier son porche roman qui nous est parvenu en très bon état avec son superbe portail du XIIe siècle, véritable chef-d'œuvre hein, de la roman bourguignon. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas en Bourgogne, mais pas très loin, à 2 km.
Vous nous faites visiter alors cette abbaye ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc ici, on est dans la cour centrale, le cloître, hein, qui est le centre vraiment de l'abbaye, où il y avait tout autour donc, les bâtiments de vie des religieux, hein, les bénédictins clunisiens, un ordre plutôt intellectuel, des moines copistes, qui avaient en effet une bibliothèque, un scriptorium. Malheureusement, comme on peut le voir ici, eh bien, il n'y a plus que la façade de ce bâtiment, puisqu'il a été démoli au XIXe siècle. Une grande partie de l'abbaye a été en effet démolie au XIXe siècle, tout simplement pour la récupération des matériaux de construction ou bien de l'espace. On a la chance d'avoir encore la salle du chapitre, donc la salle capitulaire, qui était la salle de réunion des religieux, qui présente la particularité d'avoir une superbe colonnade romane comme claire-voie, une colonnade qui date du Xe siècle. Elle a aussi son pilier central qui porte un lutrin taillé dans la pierre, dans un seul bloc de pierre, ce qui est un exemple vraiment très très rare. Et puis autrement, bien, l'élément principal aussi, c'est bien sûr le porche hein, dont je parlais, ce porche roman que je vous invite maintenant à aller visiter. Voilà, donc ici vraiment un porche qui est véritablement de la dentelle sur pierre, on peut dire. C'est de l'art clunisien, mais de l'art clunisien d'une époque quand même bien précise dans l'histoire de Cluny. C'est une période de conflit avec les cisterciens, hein, les cisterciens qui avaient opté pour le dépouillement, alors que les clunisiens opposés à Cîteaux eh bien, avaient développé une opulence dans la décoration absolument extraordinaire. Donc portail du XIIe siècle qui était à l'origine eh bien, polychrome, hein, il faut imaginer des couleurs. On voit encore d'ailleurs quelques traces hein, de polychromie, en particulier sur le linteau, dans les auréoles des personnages, les drapés. Donc un portail qui représentait l'Apocalypse, hein, l'Apocalypse selon Saint Jean. En effet, on retrouve tous les éléments de l'Apocalypse avec un Christ en majesté, en gloire, dans sa mandorle. Et autour du Christ, eh bien, ces quatre formes dont nous parle donc l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, ces quatre formes, c'est le tétramorphe, ce sont les symboles des quatre évangélistes avec le lion de Saint Marc, le bœuf de Saint Luc, l'aigle de Saint Jean et l'homme de Saint Matthieu. L'agneau de l'Apocalypse qui surplombe aussi l'archivolte tout là-haut, hein, qui domine le tout. Et puis au linteau, les apôtres avec la Vierge et un ange de chaque côté de la Vierge. Des décorations donc très, très différentes les unes des autres. Hein. On a beaucoup de rinceaux ici avec ces entrelacs de branchages. On a le motif de la grecque, on a des rubans plissés, des damiers, des billettes. Bref, on a vraiment mis toute l'opulence dans cette décoration pour bien montrer, donc je le rappelle, la différence avec les cisterciens.
Eh bien, on souhaite bonne chance à l'abbaye de Charlieu. C'est cette ville qui, il y a 10 siècles, était en fait Carus Locus, le cher lieu, ce que j'ai découvert en travaillant sur cette émission. Et puis, nous allons donc vous donner rendez-vous le mois prochain, octobre déjà, pour un nouveau numéro de Loire Mag, le podcast.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.